Bienvenue à cet épisode des Prod, un balado de la Fédération de l'UPA de Lanaudière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Dans cet épisode hors série, je rencontre Emmanuel Beauregard, technicien agricole et pomologue autodidacte pour discuter de pommes sauvages et de variétés ancestrales.
De découvrir des nouveaux pommiers, de découvrir des trésors, des pommes exceptionnelles. C'est d'avoir l'autorisation de plus de personnes pour accéder à leur terrain puis aller voir les pommiers, les observer, goûter les pommes, en cueillir les pommes. Donc, il y a ça d'une part. Ensuite, développer des partenariats ou solidifier des partenariats pour éventuellement pouvoir aller rencontrer des bailleurs de fonds avec un plan d'affaires en main puis obtenir du financement pour me partir en affaires finalement.
Donc, Emmanuel, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode de hors-série qui va aborder un sujet, disons, peu conventionnel ou du moins méconnu, la pomologie. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, parle-nous un peu de ton parcours personnel, professionnel, puis ce qui t'a amené, en fait, à cet intérêt-là.
Eh bien, moi, je suis un gars de Sainte-Mélanie. J'ai grandi sur une ferme qu'on qualifie de paysanne, une ferme en polyculture-élevage, où il y avait plusieurs cultures maraîchères, fruitières à petite échelle, une érablière, des élevages de bovins, de cochons, de volailles, etc. à petite échelle. Et en plus de tout ça, sur la ferme se trouvent encore aujourd'hui 4 vieux pommiers dont on ne sait pas exactement l'âge, mais sont des pommiers plus ou moins centenaires. Donc, quand j'étais enfant, je grimpais dans ces arbres-là comme un petit singe. Ben, j'en cueillais les pommes. Il y avait les cochons qui étaient en pâturage sous les pommiers. Bon, les cochons mangeaient ces pommes-là. On s'amusait à leur lancer des pommes. Bref, j'ai des souvenirs d'enfance avec ces 4 vieux pommiers-là qui ont été plantés par les anciens propriétaires de la ferme il y a, comme je disais, plusieurs décennies, plus ou moins 100 ans. Sinon, ben, j'ai un sentiment d'appartenance au Piémont lanaudois. Bon, je considère que mon territoire, c'est le Piémont, là, entre Sainte-Julienne et à l'ouest et Saint-Didas à l'est. Ben, ce Piémont où il y a, qui semble être un territoire de prédilection pour le pommier, cette espèce qui s'est échappée de culture puis qui pousse spontanément sur les bords de routes, de fossés, en lisière de champs. Donc, ces pommiers sauvages-là, sur la ferme chez moi, je les ai recensés dans les dernières années. J'en ai compté plus de 400, ne serait-ce que juste sur le fond de terre chez nous. En fait, ça fait une quinzaine d'années maintenant, avec un ami, que j'ai pris conscience de la présence de ces dizaines ou centaines de pommiers-là qui poussaient sauvagement dans les parcelles en friche de la ferme. Donc, avec cet ami-là, qui s'était équipé d'une presse à pommes, on s'est mis à récolter ces pommes sauvages-là pour les presser, en extraire le jus, expérimenter d'en faire du cidre. Sinon, il y a aussi mes études. En fait, j'ai étudié au Cégep de Victoriaville en gestion et technologie d'entreprises agricoles dans le profil production maraîchère et fruitière biologique. Je me suis intéressé particulièrement aux cultures fruitières. Mes expériences de travail, de stage ont été sur des fermes qui cultivaient des fruits en régie biologique. Donc, dans le cadre de mes études à Victoriaville, j'ai eu la chance de rencontrer Yves Auger, qui est un arboriculteur, pépiniériste, chercheur, qui était l'ancien prof de culture fruitière au Cégep là-bas. Yves Auger, depuis plus de 30 ans, a exploré les rangs du centre du Québec autour de Victoriaville et a recensé de nombreux pommiers sauvages et de variétés anciennes qu'il s'est mis à reproduire. Bref, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence de sa part à Victoriaville. Ça a vraiment suscité mon intérêt, ça m'a vraiment inspiré. Autrement, ben, il y a différents documents, différents livres, en fait, sur lesquels je suis tombé dans mes recherches, comme le livre « Les pommes de chez nous », qui a été publié par Agriculture Agroalimentaire Canada en 1998. C'est un livre qui présente, par des fiches de description de variétés, plus de 200 variétés de pommes qui ont été cultivées dans les derniers siècles au Québec, au Canada. Il y a les livres de Claude Jolicoeur, qui est un expert québécois du cidre.
Bien, fait qu'il y a quand même beaucoup d'ouvrages ou de textes ou de recherches quand même qui sont faites par rapport à ça, là, qui existent déjà. Mais Qu'est-ce que c'est exactement la pomologie?
Oui, en fait, la pomologie, c'est la branche de l'arboriculture fruitière qui étudie les variétés de fruits. En fait, de tous les fruits. Pas seulement les pommes, mm-hmm. comme on pourrait penser avec le nom pomologie. C'est que ça vient du latin pomus, qui veut dire fruit. Puis en fait, c'est aussi le nom d'une déesse romaine, la déesse Pomona, qui était la déesse des vergers et des cultures fruitières. Donc, c'est l'étude de toutes les variétés de fruits, c'est autant leur description que leur identification, leur classification. Depuis des siècles, les pomologues, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui pratiquent la pomologie, ils s'efforcent aussi de les retrouver, les variétés, de les conserver, de les reproduire pour les conserver, ce patrimoine-là génétique, ce patrimoine-là fruitier de l'humanité. Il s'agit parfois aussi d'améliorer les variétés fruitières ou encore d'en créer des nouvelles. Tout ça fait partie de la pomologie.
OK. Puis de ton côté, tu t'intéresses principalement aux pommes sauvages, variétés plus anciennes. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Pourquoi avoir choisi ce fruit-là dans la pomologie?
Oui, ben en fait, ça découle du terrain, du territoire, de leur présence par milliers sur le territoire. Comme je disais tout à l'heure, ça a commencé, ça s'est révélé à moi, chez moi, sur la ferme. Puis j'ai rapidement constaté qu'il y en avait chez les voisins, chez le troisième voisin, sur les rangs d'à côté, en fait, un peu partout. Donc, ça part de la présence de ces arbres-là. Ça part de mon amour des pommes depuis la petite enfance. Ça part de... un intérêt que j'ai développé au fil du temps. Pendant mes années d'études, j'ai été ouvrier agricole, j'ai été cueilleur de fruits, cueilleur de pommes, en particulier sur des vergers commerciaux. J'ai découvert là des variétés anciennes de pommes dans certains vergers qu'on trouve pratiquement plus sur le marché aujourd'hui. Au niveau des variétés anciennes de pommes, une chose qui m'intéresse, c'est tout l'aspect patrimoine, l'histoire qu'il y a derrière ces variétés de pommes-là, donc histoire locale, histoire nationale même. Au niveau des sauvageons, c'est tout le bassin génétique qui se trouve, donc des pommes qui ont des résistances à certaines maladies, qui ont des saveurs uniques, exceptionnelles, des pommiers rustiques. Ça, certainement, c'est des arbres qui ont survécu sans entretien depuis des années à toutes sortes de à toutes les conditions météorologiques, climatiques. C'est des arbres qui sont non cultivés, non traités, donc qui poussent naturellement. C'est un produit sauvage comestible ou un forestible ou un PFNL pour les initiés, un produit forestier non ligneux. J'admire ces arbres-là qui poussent justement, qui sont échappés de culture, qui poussent de manière indépendante de l'humain. Puis, là, je parle des pommiers sauvages. Ce qui est fascinant, c'est que chaque pommier sauvage, en fait, quand on parle d'un pommier sauvage, c'est un pommier qui est né d'un pépin, puis qui a poussé, qui a grandi naturellement sans entretien. Il faut savoir que chaque pépin de pomme, en germant, en poussant au fil des ans, quand il va donner des pommes, va donner une toute nouvelle variété de pommes.
OK.
Question de génétique, là, je suis pas calé là-dedans, mais ce que j'ai retenu, c'est que l'espèce Malus, l'espèce du pommier, est extrêmement hétérozygote. Ce qui fait que, justement, chaque pépin va donner une nouvelle variété, donc pas fidèle à l'arbre mère. Fait que il se trouve, juste sur le territoire de la Naudière, des dizaines de milliers de variétés de pommes uniques, nouvelles, à découvrir, à explorer. Je pense que c'est l'aspect recherche et développement, l'aspect exploration, découverte qui me fait vraiment triper là-dedans.
Ouais, ben justement, comment ça fonctionne au niveau du recensement, la dénomination puis la culture des pommes sauvages? T'sais, est-ce que le fait justement que ça peut pousser dans un environnement qui n'est pas nécessairement cultivé, est-ce que ça rend la production peut-être de pommes sauvages plus facile qu'un autre fruit? Ou t'sais, comment ça fonctionne dans ton processus?
Ben, je pourrais t'expliquer un peu les différentes étapes de ma démarche. En fait, ça commence par les repérer. Donc, j'ai développé au fil du temps des yeux bioniques, entre guillemets, là, avec l'expérience, mon regard s'est affiné. Donc, je me promène sur la route quotidiennement dans mes déplacements réguliers, puis j'ai toujours le regard qui cherche des pommiers le long de la route, au bout d'un champ. Donc là où on en trouve le plus, des pommiers sauvages, c'est dans des anciens pâturages qui sont laissés en friche, le bord de champ, en lisière de forêt, dans des fossés, dans des coulées, le long de coulées. En ce qui concerne les pommiers anciens de variété patrimoniale, c'est particulièrement, surtout sur les plus vieux rangs de colonisation, ou en fait près des vieilles maisons de ferme, où il y a des pommiers qui ont été plantés en petits vergers domestiques à l'époque, là, de la fin du 19e au début du 20e siècle. Et avec mon téléphone, j'ai une application GPS. Là, je leur mets une géolocalisation. Mm-hmm. Je note leur emplacement précis. Je les prends en photo. Et là, ça peut avoir lieu à tout moment de l'année. Au printemps, au mois de mai, c'est un moment particulièrement propice pour les repérer quand ils sont en fleurs.
Ouais, ben c'est ça, j'allais dire, tu les reconnais. Est-ce que tu les reconnais à tout moment de l'année ou parce que tu sais, j'imagine que l'hiver, quand il n'y a pas de feuilles, pas de pommes, pas de fleurs, ça doit être moins évident peut-être?
Ben, pour quelqu'un qui n'aurait pas un regard avisé, certainement plus difficile à ce moment-là, pour ma part, puis pour d'autres qui ont l'expérience avec les pommiers. Surtout les pommiers sauvages, je les reconnais à leur forme vraiment tordue, ouais. Noueux, là, okay. Les branches, ça part dans tous les sens. Il y a vraiment quelque chose de caractéristique, de propre aux pommiers au niveau de la forme.
Ouais.
La couleur du tronc, de près, l'écorce, la forme des bourgeons, les petits éperons qu'il y a parfois sur les pommiers aussi. La silhouette de loin, on peut les remarquer.
Ouais.
Des genres de petits piquants là, qui sont pas des épines, mais presque, là, comme des débuts de branches un peu pointues. Donc, il y a ça d'une part, les observer, les remarquer, ensuite les référencer avec mon application GPS, prendre des photos, leur donner un code. Là, je donne l'exemple du printemps, mais en fait, à l'automne, quand j'y retourne, si je trouve un pommier au printemps, je vais y retourner certainement plus tard dans l'année, là, entre le mois d'août puis le mois d'octobre, pour aller voir les fruits, les observer, en cueillir au moins quelques spécimens pour pouvoir les observer plus attentivement ensuite.
Ouais.
Mon objectif, c'est de deux choses. Avec les pommiers de variétés anciennes, c'est d'essayer d'identifier les vieilles variétés. Pour ça, l'aide des propriétaires ou des anciens propriétaires peut être très, très, très utile. Dans bien des cas, les gens ne savent pas c'est quoi les variétés parce que c'est le terrain, la propriété n'était pas dans leur famille depuis des générations. Ça peut être des propriétaires assez récents. Ou alors, c'est tout simplement une information qui s'est perdue, qui ne s'est pas transmise. À ce moment-là, il existe des ouvrages de référence que j'ai accumulés dans ma bibliothèque ou d'autres, des sites web aussi, où c'est possible de lire des fiches descriptives de variétés, puis là, d'essayer de faire des recoupements. Donc, à partir de la description, la couleur, la forme, la saveur, toutes sortes de petits détails botaniques, là, la profondeur, la longueur du pédoncule.
C'est quand même beaucoup de détails parce que c'est ça que je me demandais, tu sais, je veux dire, dans ma tête, tu sais, on va à l'épicerie, par exemple, on voit les variétés de pommes. OK, à l'œil, oui, il y a certains détails qu'on peut reconnaître facilement, tu sais, surtout la couleur ou peut-être même la grosseur. Mais quand on parle de milliers de variétés de pommes, je veux dire, à quel point sont différentes pour qu'on soit capable de reconnaître c'est chacune d'elles, puis après ça, de se dire, est-ce que c'est une variété qui a déjà été recensée ou une nouvelle variété qui ne l'a pas été du tout? T'sais, comment ça fonctionne, cette espèce de consensus-là entre les pommologues par rapport aux variétés?
Quand je parlais de pommiers sauvages qui sont nés d'un pépin, c'est le mode de reproduction sexué normal dans la nature pour les pommiers. La fleur, le pollen de l'un va être transporté par une abeille, par exemple, ou des abeilles, puis va polliniser les fleurs d'un autre pommier. Puis là, il va avoir une hybridation.
Okay, ouais.
Les pommiers sauvages, comme je disais, on ne peut pas les identifier, les variétés. On peut les décrire parce qu'elles sont uniques. Sont nouvelles. Chaque pépin de pomme donne une variété nouvelle.
Ouais.
Les pommiers sauvages, on arrive à constater que c'est des pommiers sauvages parce que, ben, vu l'emplacement où ils poussent, c'est visiblement en bord d'un fossé, en lisière de forêt ou dans un sous-bois, c'est pas un endroit où les humains les ont plantés. Les pommiers sauvages, pas tout le temps, mais souvent, ils sont multitroncs. Ça peut être des fois plusieurs pépins au même endroit qui ont germé, puis ça peut être au même endroit 3, 4, 5 troncs avec des variétés différentes. Mm-hmm. Ça peut être aussi parce qu'il a été brouté par un animal, par exemple un chevreuil, dans ses premières années de vie. Puis là, le pommier a ramifié, a fait plusieurs tiges qui ont eu la chance de croître.
Okay.
Contrairement en verger où les arbres sont bichonnés, sont taillés pour avoir un seul tronc principal. Fait que les pommiers sauvages, on voit assez rapidement que c'est pas un pommier cultivé. Les pommiers cultivés, eux, sont composés de deux parties, le porte-greffe et le greffon. Le porte-greffe, c'est essentiellement le système racinaire sur lequel, le système racinaire est le début du tronc, sur lequel est greffé ou la variété qu'on veut reproduire.
Ah, OK.
Parce que dans le fond, comme j'ai un peu, je viens de le dire, si on sème un pépin d'une pomme, par exemple, McIntosh,
ouais.
Mettons, il y a 5 pépins en général dans une pomme, on sème les 5 pépins de cette pomme McIntosh-là, il y a aucun des 5 pépins qui, dans 5 ou 10 ans, admettons, va donner une pomme identique à la McIntosh.
Okay,
ça va donner des dérivés.
Mm-hmm.
Selon, entre autres, avec quelle autre variété le pommier mère a été hybridé. Donc, c'est vraiment la façon de reproduire les variétés de pommes, c'est de greffer.
Okay.
Pour le moment, j'en ai seulement quelques variétés anciennes que j'ai trouvées. J'ai trouvé des pommiers avec de la Saint-Laurent. J'ai trouvé quelques pommiers avec de la Duchesse, aussi connue sous le nom de Duchesse d'Oldenbourg. Puis, fort probablement, des pommiers avec de la fameuse qui a été la variété de pommes la plus cultivée au Québec et au Canada pendant plus de 200 ans.
Okay.
Donc, la pomme fameuse qui est l'ancêtre de la pomme McIntosh. Donc, la pomme McIntosh est née d'un pépin de pomme fameuse sur le terrain de Monsieur McIntosh en Ontario à la fin du 19e siècle. Puis la McIntosh est devenue célèbre, c'est la pomme que tout le monde connaît. Mais pendant deux siècles et demi, on ne parlait que de la fameuse. C'était vraiment la pomme de prédilection des Canadiens français.
D'où son nom, j'imagine, la fameuse. C'était celle-là, la fameuse pomme.
Elle était vraiment réputée, là.
Puis, c'est quoi exactement le potentiel de ces fruits-là?
Bien, en fait, parmi ces pommes sauvages-là, on trouve un peu de tout. On trouve des pommettes toutes petites qui sont immangeables, qui sont soit très amères, aigres, très acides. On en trouve aussi parfois des pommes, des grosses pommes sucrées, saines, peu piquées par la mouche des pommes. Donc, il y a le potentiel de trouver parmi ces pommes sauvages-là des futures pommes à croquer ou des génétiques, des caractéristiques qui pourraient être éventuellement hybridées avec d'autres pommes pour créer des nouvelles variétés. Donc, il y a le potentiel de trouver dans ce pommage régional-là de futures pommes à croquer, mais particulièrement, en fait, c'est pas moi qui l'invente. Plusieurs spécialistes le disent avant moi. Parmi les pommes sauvages, on a le potentiel de trouver d'excellentes pommes à cidre. Les pommes à cidre qui se distinguent des pommes à croquer par leur saveur. Tu sais, les pommes à croquer, c'est des pommes essentiellement sucrées, souvent quand même acidulées. On aime ça, une pomme avec une bonne pointe d'acidité parce que ça l'amène une belle fraîcheur en bouche. Mm-hmm. Dans les pommes à cidre, il y a différentes classes de pommes à cidre à l'échelle internationale. En France, ils ont les leurs. En Angleterre, ils ont les leurs. Aux États-Unis aussi. Mais tu sais, grosso modo, il y a des pommes amères. Il y a des pommes douces amères, donc à la fois sucrées et amères. Il y a des pommes aigres amères, donc acides et amères à la fois.
Mm-hmm.
Il y a des pommes astringentes. Là, il faut faire la distinction entre l'amertume et l'astringence. L'astringence, c'est cette caractéristique-là de rendre la bouche pâteuse.
OK.
Dans les pays où il y a des traditions cidricoles anciennes, comme des régions de la France, comme la Bretagne, la Normandie, comme en Angleterre, ils utilisent des pommes spécifiquement pour le cidre, qui sont classées comme ça, des pommes amères, douces amères, aigres amères, astringentes, qui permettent de créer des cidres avec une complexité aromatique, tu sais, qui va au-delà de simplement le sucre et l'acidité.
Ouais.
Il y a l'exemple au Québec d'une cidrerie en Outaouais qui s'appelle les Pommes Perdues, qui depuis quelques années fabrique du cidre 100% à partir de pommes glanées. Donc ils ont pas de verger en soi chez eux, ils vont cueillir leurs pommes à gauche à droite chez des propriétaires privés. Donc des pommes sauvages ou des pommes de pommiers anciens. Puis ils font des cidres des cidres fermiers, des cidres artisanales en micro-cuvées comme ça, ouais, avec les pommes sauvages. Puis il y a de plus en plus de cidreries à travers le Québec qui en incorporent parfois une petite fraction de pommes sauvages dans leur assemblage de pommes pour faire leur cidre. Donc en ce moment, il y a vraiment une effervescence au Québec pour autour du cidre en général, puis sur l'exploration des pommes sauvages dans différentes régions aussi pour trouver les pommes à cidre de notre terroir québécois, finalement.
Ouais.
Parce que dans l'histoire du cidre au Québec, depuis les années 70, les pommes utilisées pour faire le cidre, c'est des pommes à croquer. C'est de la McIntosh, de la Cortland, de la Spartan, etc. essentiellement. C'est des vergers de pommes à croquer qui ont des surplus ou qui ont décidé de diversifier leur offre puis d'offrir du cidre en plus. Cette manière de faire au Québec avec des pommes à croquer est en train de changer depuis quelques années. Il y a le regroupement Récupom qui, depuis 2014, si je me souviens bien, dans leur verger expérimental de Frelischburg, ont commencé à expérimenter différentes variétés de pommes acides venant justement d'Angleterre, des États-Unis, de France, etc. Puis qui ont commencé à être distribuées puis expérimentées dans différents vergers de cidreries aussi.
Ben j'imagine, c'est ça, tu sais, le fait qu'on utilise des pommes à croquer, c'est aussi une question d'approvisionnement. Tu sais, je veux dire, pour faire une grande quantité, dans un sens, on n'a comme pas le choix d'utiliser ce qu'il y a en grande quantité aussi sur notre territoire, là, j'imagine.
Exact. Mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé par là. Puis progressivement, il y a certains vergers qui sont en train de remplacer en tout ou en partie, ou des nouveaux vergers ou cidreries qui implantent un verger commencent à implanter des variétés de pommes acides, justement, tirées des terroirs européens ou américains. Mais là, il y a un mouvement qui est en branle au Québec, dans différentes régions, où des cidriculteurs vont explorer leur friche, leur bord de route, les lisières de champs pour aller trouver des variétés nouvelles qui ont un potentiel intéressant en cidrerie. Donc, vont expérimenter ces variétés-là. Pour ce qui est de pommes sauvages, en fait, on est au tout début de ça. Je pense à Claude Jolicoeur, qui est l'auteur de livres de référence sur le sujet. Lui, dans ses livres, depuis quelques années, il invite il encourage on peut dire cidrier ou cidriculteur, okay, à notre guise, c'est synonyme. Donc, il invite les cidriers du Québec à aller explorer leur pommage régional. Le pommage, en fait, ça désigne l'ensemble des variétés de pommes d'une région.
OK.
Quand on trouve une pomme sauvage intéressante, qu'on pense intéressante pour la cidrerie, ben on peut cueillir les pommes de cet arbre-là, les presser au moment venu, en extraire le jus, puis les mettre en cuve de fermentation puis expérimenter. Si elle s'avère intéressante puis qu'on souhaite la reproduire, il faut retourner voir l'arbre au printemps suivant, à la fin de l'hiver, quand les arbres sont encore en dormance. Puis là, on va, avec son sécateur, on va aller prélever des petites pousses de l'année.
Mm-hmm.
Les petits bouts de branches qui ont le calibre à peu près d'un crayon à mine, ce qu'on appelle des sillons. Donc, on va prélever des sillons qu'on va conserver au frigo pendant quelques semaines, donc durant le mois d'avril, jusqu'à ce que soit venue la période de greffe. Donc, ça, c'est l'étape suivante, c'est d'aller donc greffer pour multiplier la variété.
Ouais.
Ensuite, c'est de l'expérimenter en conduite de verger. Une pomme sauvage qui n'existe à la base que sur un seul arbre, qui a évolué dans un environnement donné, une fois greffée en verger, dans des conditions complètement différentes, un autre environnement, en verger, les pommiers vont être fertilisés, taillés.
Ils vont avoir du plein soleil aussi pour la plupart.
Ils vont avoir du plein soleil. Donc, des conditions différentes. Il peut arriver que les pommes qui vont en sortir quelques années plus tard soient assez différente de celle de l'arbre d'origine.
C'est, ça, c'est intéressant.
C'est ce qu'on m'a raconté.
Okay.
Donc, avant de
crier victoire.
De crier victoire, exactement. Puis de reproduire puis distribuer en grande la nouvelle variété de pommes.
Ouais.
Il faut prendre le temps de l'expérimenter en régie de culture en verger pendant quelques années.
OK.
Pour en connaître les caractéristiques, le comportement, les réactions à la taille, la sensibilité aux maladies puis aux insectes. Donc, c'est pas quelque chose... C'est du travail sur le moyen-long terme.
Ben, quand même, ça a l'air d'être une production relativement facile à faire pousser, mais c'est long.
Ben, tu dis ça, puis ça me fait penser qu'un phénomène qu'on retrouve naturellement chez les pommiers, chez beaucoup de variétés, chez les pommiers sauvages, c'est le phénomène de l'alternance. C'est-à-dire que les pommiers vont une année produire beaucoup de fruits, puis l'année suivante, l'arbre va produire peu ou même pas du tout.
Oh,
donc, les pommiers vont... les pommiers se reposent, pour ainsi dire, vraiment. Là. C'est quelque chose qui peut être régulé par la taille printanière.
Okay.
On peut arriver à avoir une production plus constante, plus régulière en taillant les pommiers. Mais puis il y a des variétés qui sont plus promptes à ce phénomène-là, puis d'autres le sont moins. D'autres variétés sont des producteurs plus réguliers.
OK.
Donc, il y a l'expérimentation sur plusieurs années en verger, mais il y a aussi l'expérimentation, si on parle de cidrerie, en cidrerie. Là. Donc, il va y avoir d'analyser le mou ou le jus de pomme. Donc, c'est quoi le taux de sucre? C'est quoi l'acidité de ce jus de pomme-là? C'est quoi son taux en tanin? Après ça, il y a d'autres caractéristiques de la pomme qui est intéressant d'étudier, comme sa capacité de conservation. Donc, il y a expérimenté en cidrerie, mais sinon d'expérimenter pour d'autres types de transformations, que ce soit en jus, en compote. Certaines pommes sont meilleures que d'autres pour la cuisson, vont plus garder leur... vont rester fermes après cuisson, d'autres non. Il y a des pommettes qui peuvent être intéressantes pour faire de la gelée. Bref, pour moi, c'est tout un vaste champ de recherche et développement. Il y a plein d'expérimentations à faire avec ces pommes-là.
D'ailleurs, ce sont quoi tes aspirations en lien avec cette passion-là dans le futur?
Ben, mes aspirations, c'est de recenser un maximum de pommiers sauvages et anciens sur le territoire de la région de la Naudière. J'ai commencé en 2020, là j'en suis à environ 2500 pommiers recensés, mais je considère que ce n'est que le début parce que y a des tals... des pommerais, là, vraiment des vergers sauvages à des endroits de ma connaissance où j'ai pas encore pris le temps de les géolocaliser, de retourner les voir à l'automne pour goûter les fruits. Fait que c'est vraiment un travail de longue haleine sur plusieurs années, ne serait-ce que pour les recenser.
Ouais.
Ensuite, je veux les caractériser, donc prendre des notes, ben les observer, prendre des notes sur leurs caractéristiques, en sélectionner avec le temps, en sélectionner les championnes ou les plus intéressantes à des fins de cidrerie en particulier. Donc, je veux les expérimenter en régie de verger. En ce moment, chez moi, sur la ferme, j'ai commencé une petite pépinière. J'ai eu la chance l'an dernier et cette année encore de me faire offrir 100 porte-greffes par un arboriculteur de Saint-Joseph-du-Lac qui a découvert mes projets. Puis pour m'encourager, il m'a fait cadeau comme ça de 100 porte-greffes en 2022.
Okay.
Et la semaine dernière, de nouveau, 100 autres porte-greffes.
Wow.
Sur lesquels j'ai commencé à greffer des variétés uniques, nouvelles,
okay,
issues de sauvageons que j'ai découvert dans la région. Donc à l'heure actuelle, j'ai un peu plus de 70 variétés de pommes greffées.
OK.
Donc, les arbres sont pour le moment en pépinière. Je souhaite, avec le temps, implanter chez moi un verger conservatoire des variétés anciennes qu'on trouve dans la Naudière, mais aussi des variétés nouvelles qu'on aura sélectionnées, moi et d'autres pépiniéristes ou cédriculteurs de la région. Un autre projet que j'ai, puis en ce moment, je travaille à convaincre des comparses de la région de l'intérêt de fonder une association pommologique de la Naudière.
OK.
Dans le but de regrouper les connaissances puis les savoir-faire pour qu'on se partage nos découvertes, pour qu'on puisse avancer ensemble par l'intelligence collective, qu'on puisse faire des échanges entre collectionneurs de variétés. Donc, ça peut intéresser tant des pépiniéristes fruitiers, des arboriculteurs, des pommiculteurs, des producteurs de pommes, des cidriers, puis d'autres cueilleurs passionnés de fruits sauvages.
Puis justement, régionalement, est-ce que tu sens qu'il y a de l'intérêt?
Absolument. Absolument. Dans la Naudière, depuis quelques années, comme ailleurs au Québec d'ailleurs, puis aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde, il y a un renouveau du cidre.
Oui, parce qu'on a l'impression que c'est nouveau, on dirait, ici, mais on le sait, l'historique du cidre au Québec est quand même relativement récente, contrairement ailleurs dans le monde. Malgré que ça fait quelques années, là, il y a comme un espèce d'intérêt ou un engouement autour de ça, là.
Ben, il y a eu la vague au Québec des microbrasseries depuis les années, on va dire, fin 80 ou années 90. Il y a eu, dans les quelques dernières années, une vague des microdistilleries.
Ouais.
Puis depuis, je dirais, 5 ans, disons, il y a une vague de micro-cidreries, de cidreries artisanales qui font des cidres fermiers en suivant des méthodes traditionnelles, en utilisant des variétés de pommes à cidre, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans encore au Québec. Du côté de la Naudière, il n'y avait jusqu'à récemment qu'une cidrerie qui sème récolte à Saint-Jean-de-Mata. Depuis l'an dernier, la brasserie L'Alchimiste a développé une gamme de cidres aussi qui s'appelle les cidres Evelyn, qui travaillent essentiellement avec des pommes déclassées de vergers lanaudois. Et sinon, il y a d'autres brasseurs de la région qui s'intéressent à la cidrerie, comme Steven Bussière de l'Albion, qui tripe aussi sur les pommes sauvages, qui en a découvert des bonnes tales près de chez lui. Pour ma part, depuis 2 ans, je collabore avec la brasserie Malmström de Notre-Dame-des-Prairies, à qui j'ai vendu l'essentiel de ma cueillette de pommes sauvages, puis avec qui j'ai pressé les pommes les 2 derniers automnes. Michael, copropriétaire, a fermenté le jus de pomme séparément dans des barils de chêne, puis quelques mois plus tard, assembler le tout avec un moût de bière pour produire une bière aux pommes, qu'il a appelé l'assemblage pomme, qui a été lancé sur le marché en novembre dernier. Puis d'autres nouvelles cuvées vont suivre dans l'année à venir.
Oui, ben ça crée aussi des produits distinctifs là, quand on utilise en plus les pommiers sauvages, pommiers rustiques. Là. Fait que je trouve que ça développe des produits intéressants aussi pour une clientèle qui recherche justement ce goût raffiné-là, peut-être, si on peut dire, ou exclusif aussi, de par la quantité qu'ils vont peut-être potentiellement produire. Là.
Tout à fait. C'est des produits distinctifs avec des pommes uniques qu'on ne trouve que dans la Naudière pour le moment. C'est effectivement des micro-cuvées ou quelques centaines de litres.
Pour terminer, pour réaliser tous ces projets-là, ce serait quoi pour toi les prochaines étapes de ton côté? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Dans les prochains mois, dans la prochaine année, en ayant du temps pour m'y consacrer, c'est de découvrir des nouveaux pommiers, de découvrir des trésors, des pommes exceptionnelles. C'est d'avoir l'autorisation de plus de personnes pour accéder à leur terrain puis aller voir les pommiers, les observer, goûter les pommes, en cueillir les pommes. Donc, il y a ça d'une part. Ensuite, développer des partenariats ou solidifier des partenariats pour éventuellement pouvoir aller rencontrer des bailleurs de fonds avec un plan d'affaires en main puis obtenir du financement pour me partir en affaires finalement.
Pour terminer, en fait, nos épisodes hors série, on aime ça poser à nos intervenants des petites questions ludiques, rapido, en vrac, pour apprendre à mieux les connaître d'une façon un peu plus personnelle. Fait qu'on y va en rafale. Si tu devais choisir un métier qui n'a pas de lien avec l'agriculture, ce serait lequel?
Eh bien, j'ai longtemps eu du mal à choisir une profession, un domaine d'études même, en ayant trop de champs d'intérêt. Il faudrait que ce soit quelque chose qui puisse assouvir ma soif d'apprendre, ma grande curiosité. Donc, ça pourrait être journaliste, ça pourrait être recherchiste, archiviste, historien. J'arrive pas à donner une réponse simple.
Tu aurais des options. Ton activité physique préférée?
Clairement, la marche.
En forêt ou en bord de route à la recherche de pommiers?
Exactement. Tout ça peut se lier ensemble.
Un plaisir coupable.
Boire du cidre.
J'écrivais la question, puis ça me faisait rire, là, mais ton légume et ton fruit préféré? On se doute d'une des deux réponses, mais disons le légume préféré.
J'ai goût de dire le maïs comme légume, parce que cultivé par des peuples autochtones depuis 10 000 ans et plus sur le territoire de ce qu'on appelle Québec. Ah, sinon, je pourrais dire la courge. Bon, même si botaniquement, c'est un fruit, mais mon fruit préféré, vous l'aurez compris, c'est la pomme sauvage.
Qu'est-ce que tu aimes faire de tes vacances?
Des va-quoi?
Ouais.
Non, mais des recherches généalogiques ou historiques sur notre coin de pays, sur le Québec, sur la Naudière, sinon lire des romans, des essais, de la poésie.
Une chose que tu veux faire absolument une fois dans ta vie?
Je dirais écrire et publier un livre.
Hey, c'est un beau projet. Sur la pomologie, j'imagine?
C'est une piste intéressante.
Ouais.
Il y a une chose dont j'ai pas glissé un mot, c'est que à l'été 2021, j'ai créé une page Facebook que j'ai intitulée, avec humour et sérieux quand même, que j'ai intitulée donc le ministère des friches et des pommerais. J'ai créé cette page Facebook-là pour publier les histoires de mes recherches, pour partager mes références, que ce soit des livres ou pour rendre hommage à des personnes, à des pomologues québécois ou d'ailleurs. Donc, je me suis créé cet espace-là de communication, de partage pour raconter différentes histoires autour des pommes sauvages et de la pomologie. Donc, cette page Facebook-là a attiré l'attention de plusieurs personnes, m'a permis des contacts, des rencontres, des échanges. C'est comme ça que j'ai rencontré Roland Joannin, qui est le maître d'œuvre du collectif de pommiculteurs La Pomme de Demain, qui est établi à Saint-Joseph-du-Lac. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, M. Joannin m'a offert des porte-greffes l'an dernier et cette année. Bref, je ne peux qu'inviter vos auditeurs à aller jeter un coup d'œil à ma page Facebook en allant voir sous le nom Ministère des Friches et des Pommerais.
Bien, sur ce mot de la fin, Emmanuel, je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'épisode avec nous aujourd'hui. Puis effectivement, on invite les auditeurs à peut-être être curieux puis s'intéresser davantage à ce type de culture. Puis je te souhaite que tous tes projets se réalisent à court, moyen et long terme.
Bien, ça m'a fait grand plaisir, Adèle. Je te remercie beaucoup.
Le balado Les Prods est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!